Radio Prague, les informations. Bonjour, les députés ont approuvé l'amendement devant permettre la vente de terres agricoles ressortissants de l'Union européenne. Selon un audit, le bureau du gouvernement a enfreint la loi sur les règles budgétaires lors de la présidence tchèque de l'Union européenne. Et puis les infirmières réclament plus de compétences et une augmentation de leur salaire. La Chambre des députés a approuvé mercredi en première lecture un amendement à la loi dite sur les devises devant permettre aux ressortissants des autres pays membres de l'Union européenne d'acheter des terres agricoles en République tchèque. L'interdiction de leur vente avait été obtenue par le gouvernement tchèque lors de l'adhésion du pays à l'Union européenne en 2004. Cette exception pour une période transitoire arrivera cependant à son terme en mai prochain. Actuellement, les étrangers n'ont pas le droit d'acheter des terres agricoles. Dans la pratique, plusieurs dizaines de milliers d'hectares sont toutefois la propriété de personnes morales étrangères possédant un siège en République tchèque ou de sociétés mixtes fondées en commun avec des personnes physiques tchèques. À la différence de la République tchèque, la Slovaquie et la Hongrie ont demandé à Bruxelles une prolongation de la période transitoire. Cette même prolongation a déjà été obtenue par la Pologne. Selon le site internet actualier.cz, le bureau du gouvernement a enfreint la loi sur les règles budgétaires lors de la préparation et de l'exercice de la présidence tchèque du Conseil de l'Union européenne au premier semestre 2009. Le ministre des Finances a mis en évidence, lors d'un audit comptable, des disparités d'environ 20 millions de couronnes, soit 800 000 euros, dans les commandes effectuées par le gouvernement. L'information a été communiquée ce mercredi. Le montant total de la somme consacrée par l'État à la présidence de l'Union européenne s'est élevée à 3,5 milliards de couronnes, soit 140 millions d'euros. Les infirmières tchèques réclament plus de compétences ainsi qu'une augmentation de leur salaire. Leurs revendications ont été soutenues ce mercredi par le ministre de la Santé, Leos Heger. Nous voulons mettre en avant notre potentiel qui peut être utilisé au cas où il viendrait à manquer de médecins, a déclaré la présidente de l'association des infirmières tchèques à l'issue d'une rencontre avec le ministre. Selon la présidente, les infirmières devraient aussi contribuer à l'élaboration de la réforme du système de la santé publique. Leos Heger a promis la semaine dernière le déblocage de 2 milliards de couronnes aux hôpitaux. Cette somme doit permettre de faire face aux risques de crise dans le secteur de la santé et notamment de mieux rémunérer les médecins hospitaliers ainsi que les infirmières. La République tchèque aura bientôt un nouvel ambassadeur en Belgique. En poste depuis juillet 2006, Vladimir Müller sera remplacé par Ivo Šramek, qui travaillait jusqu'alors comme directeur politique au ministère des Affaires étrangères. Le mois de février sera également marqué par le remplacement de l'ambassadeur de République tchèque en Égypte. Pavel Kafka succédera au Caire à Miloslav Stašek. Les postes d'ambassadeur en Ukraine et aux États-Unis devraient être également prochainement attribués. L'exceptionnelle exposition consacrée à l'art et à la civilisation égyptienne programmée au château de Prague en 2012 ne sera probablement pas organisée en raison de la situation actuelle en Égypte. C'est ce qu'a annoncé mercredi le doyen de la faculté des lettres de l'université Charles à Prague qui participe aux préparatifs de l'exposition intitulée « L'Égypte, une voie pour l'éternité ». Une commission du musée égyptien du Caire aurait dû se réunir récemment pour déterminer une liste des objets, notamment du trésor de Toutankhamon, prêté à la République tchèque. Le président tchèque et son homologue égyptien, Hosni Moubarak, s'étaient entendus sur la tenue de l'exposition lors de la visite de Václav Klaus en Égypte l'année dernière. On termine avec un mot de météo. Le temps reste couvert sur l'ensemble du territoire ce jeudi, jour de la fête des Blageilles. Des averses et quelques chutes de neige sont attendues à Prague et dans la moitié sud-ouest du pays. Les températures sont stables et varient entre moins 3 et 3 degrés pour les maximales. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Quel plaisir de vous présenter Guillaume Narguet. Merci de votre attention. Tout de suite, retrouvez Alexis Rosenzweig pour la suite de notre programme. Faits et événements en République tchèque.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes toujours à l'écoute du programme en français de Radio Prague. Merci à Guillaume Narguet pour le bulletin d'information. Dans la première partie de cette émission, nous parlerons culture et gastronomie, avec d'abord une nouvelle polémique autour du Théâtre National de Prague, et puis avec un petit coin de Bretagne à Prague, un magasin et une galerie qui viennent d'ouvrir dans le quartier de Vinohrady. Juste après ça, ce sera comme tous les mercredis, un nouveau chapitre de l'histoire avec Yarka Gisubelova, un chapitre de l'histoire consacré cette semaine à la famille des Luxembourg. Une âpre polémique secoue ces derniers jours les milieux culturels de la capitale tchèque. Il s'agit de l'avenir du Théâtre National et de l'Opéra d'État de Prague, des établissements qui, selon une nouvelle conception du ministère de la Culture, devraient fusionner. Václav Richter.
Actuellement, coexistent à Prague deux grands théâtres subventionnés, le Théâtre National et l'Opéra d'État. Le Théâtre National est une importante institution réunissant les ensembles d'opéra, de ballet et de théâtre dramatique qui jouent à tour de rôle dans le bâtiment historique du théâtre sur le quai de la Vltava, au Théâtre des États, au Théâtre Kolovrat et au Théâtre Nova Scena, la Nouvelle Scène. Tous ces établissements et tous ces ensembles ont une seule direction et une seule gestion économique. Ce système ne semble toutefois pas convenir au ministre de la Culture Jiří Bessel du parti Top 09 qui a fait élaborer une nouvelle conception de la vie théâtrale de Prague. Selon ce projet, qui fera encore l'objet d'une discussion, le Théâtre National et l'Opéra d'État seraient réunis et leurs ensembles fusionneraient. Le théâtrologue Josef Hermann, un des auteurs de la nouvelle conception, estime que le Théâtre des États, établissement où Mozart a dirigé la première mondiale de Don Giovanni, devrait être réservé au répertoire mozartien.
Je crois vraiment que cet établissement devrait se transformer en un théâtre stagione mozartien, c'est-à-dire un théâtre sans ensemble permanent. Si nous avons la possibilité d'attirer l'attention du monde, c'est surtout par la tradition mozartienne et par cette maison lyrique liée à Mozart. Je pense que les différents théâtres devraient être les unités indépendantes comme à l'étranger. Chaque maison devra avoir donc son directeur, son budget et son programme.
Ces informations ont cependant provoqué un tollé dans les milieux culturels pragois, et notamment parmi les artistes de la troupe dramatique du Théâtre National, qui jouent régulièrement, entre autres, sur la scène du Théâtre des États. Craignant d'être chassés par l'opéra de l'établissement qu'ils considèrent, pour citer leur directeur Michal Dočekal, comme le plus beau théâtre du monde, ils se sont adressés au ministre de la Culture pour lui demander des explications. Ce mardi, le ministre Jiří Bessel leur a donc rendu visite pour expliquer ses intentions. Et pour les rassurer.
C'est la première conception intégrale, mais personne ne dit que c'est une conception qui sera finalement adoptée par le ministère de la Culture. C'est la première des variantes possibles, mais je ne l'admets pas du tout parce qu'il y a certains aspects avec lesquels je ne suis pas d'accord. Et il s'avère que les milieux du théâtre et les personnes qui seraient directement concernées par ces changements ne sont pas d'accord non plus.
Personne n'envisage donc, selon le ministre, de chasser les comédiens du Théâtre des États. Jiří Bessel reste cependant convaincu que dans la capitale tchèque, il n'y a pas d'espace pour deux théâtres lyriques et n'abandonne pas l'idée de la fusion du Théâtre National et de l'Opéra d'État. Il cherche néanmoins à démentir les rumeurs selon lesquelles ces changements pourraient aboutir à la privatisation de certaines parties de ces établissements.
Dans sa nouvelle conception de l'Opéra d'État et du Théâtre National, le ministère de la Culture n'envisage pas du tout de privatiser un de ses établissements ou de le placer sous la gestion de la municipalité de Prague. Je crois que ce sont les données essentielles qu'il faut prendre en considération.
La décision sur l'avenir des théâtres pragois devrait tomber encore avant la fin de cette année. Jiří Bessel espère que ces changements pourraient améliorer aussi la qualité artistique de leur production.
Suite de notre émission avec un problème récurrent, surtout l'hiver en République tchèque, la pollution et le smog. Selon une information parue sur la chaîne d'information ČT24, la pollution de l'air a diminué ce mercredi en Moravie-Silésie. Ces dernières 24 heures, la concentration de poussière fine a franchi les limites autorisées dans toutes les stations de mesure. Toutefois, ces limites dépassent désormais moins du double autorisé, contrairement à ce qui était le cas ces 5 derniers jours. Plus de précisions avec Alamoudine Ousmani.
La concentration d'aérosol se situait ce matin entre 56 microgrammes par mètre cube à Studenka, près de Novi Ichin, et 84 microgrammes à Tchinets, près de Friedek-Mistek. Les limites journalières autorisées sont pourtant de 50 microgrammes par mètre cube. Le signal de la régulation est toujours en vigueur et les météorologues peuvent l'abroger seulement 24 heures après que les concentrations journalières sur la dernière station aient baissé à moins de 150 microgrammes par mètre cube. Les autorités locales ont mis au point différentes mesures afin de diminuer la pollution de l'air. Cette dernière a, en effet, eu pour conséquence d'aggraver l'épidémie de grippe qui s'est déclarée ces derniers jours. Les entreprises qui polluent le plus et qui possèdent des permis de polluer valables doivent impérativement restreindre leur production. Les transports publics à Ostrava sont gratuits. La ville souhaite que les gens restreignent ainsi l'utilisation de leurs véhicules personnels, le transport étant en grande partie responsable de la situation. L'autre source significative de pollution est l'utilisation de combustibles non écologiques pour le chauffage des maisons familiales. Autre région sensible plus à l'ouest, celle d'Ustina nad Labem. Selon le site českenovene.cz, les restrictions ne seront pas appliquées à cette région alors que l'on pensait que cela serait probable ce lundi. Les conditions de dispersion se sont améliorées même si les normes autorisées sont sensiblement dépassées selon Martin Novak de l'agence hydrométéorologique de la région d'Ustina nad Labem.
Un petit coin de Bretagne au cœur de la capitale tchèque, c'est comme ça qu'on pourrait décrire le nouveau magasin qui a ouvert cette semaine dans le quartier de Vinohrady, un magasin galerie où l'on trouve des spécialités gastronomiques du terroir breton, mais pas seulement. Nous avons rencontré ce matin la propriétaire de Bretagne Terre et Mer.
Je m'appelle Yana Denkova et j'ai décidé d'ouvrir un magasin qui parle de la Bretagne, en République tchèque, notamment en Prague. J'ai choisi Prague 2 puisque pour moi c'est un centre-ville, c'est mon quartier où j'ai été née. Et puisque j'ai vécu pendant une dizaine d'années en Bretagne, et puis c'est une histoire de cœur parce que j'ai mes amis de longue date, d'une trentaine d'années, j'ai honte de le dire, mais c'est comme ça. Donc en coup de cœur, l'idée était venue. De présenter les valeurs du terroir et toutes les valeurs de la Bretagne qui, à mon sens, et puis selon l'avis de mes amis de Bretagne également, peuvent être très bien accueillis par les Tchèques puisque ça peut les amener aux leurs valeurs anciennes, puisque ce sont les gens qui ont été toujours attachés à la campagne et puis au sens du terroir, au bon goût, etc. Donc pour moi, c'est communiquer des valeurs de Bretagne.
Vous avez l'intention de faire non seulement un magasin, mais aussi une galerie, c'est annoncé sur, en tout cas à la porte.
Oui. Moi je pensais, si j'ai parlé au début, sur les valeurs, etc., qu'on souhaite de communiquer. L'idée, c'est que déjà avoir une galerie des photos encadrées, originales. Notamment, je commence à travailler avec Monsieur Patrick Gauthier, qui est un très 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 beau photographe qui travaille et tient d'ailleurs sa boutique à Saint-Malo, que je connais personnellement, et je suis tombée follement amoureuse de ses photographies. Donc les originaux encadrés, et puis ensuite je souhaite aussi proposer à la population, surtout tchèque, puisque les Français connaissent bien, et puis peut-être une autre occasion de s'en procurer, mais les images encadrées thématiques telles que les phares de Bretagne, les oiseaux de mer, les poissons de mer, et puis les maquettes des voiliers et des cadeaux qu'on appelle en France déco marine. Voilà.
Déco marine. Et alors, il n'y a pas de poisson. Quand on parle de la Bretagne, on pense souvent à poisson. Il n'y a pas de poisson à vendre dans votre magasin, mais il y a de la soupe de poisson.
Oui, exactement, parce que je souhaite, surtout au début, de faire connaître quelque chose qui n'est pas accessible dans d'autres magasins, non seulement à Prague, mais aussi dans le pays. Donc, comment faire? Ben, je me suis dite que peut-être une voie d'ouverture peut se faire par la conserverie de saveurs. Je n'ai pas honte de citer la société qui est mon fournisseur exclusif pour l'instant, la société DV France, qui fabrique des excellents produits. Moi, j'avoue que j'ai vraiment une collaboration impeccable avec eux, qui me soutiennent, qui ont été très avenants pour m'aider à choisir le catalogue d'ouverture. Et on a choisi donc des soupes de poisson, des soupes de homard, des soupes de crevettes, des soupes des veloutés, des soupes de crabes, tout ce qui est très difficile à trouver, non seulement dans Prague, mais dans tout le pays, parce que des produits frais, je sais qu'il y a une poissonnerie à Smíchov, etc., mais c'est pas du tout accessible à tout le monde.
Vous venez d'entendre Madame Denkova qui vient d'ouvrir un magasin spécialisé dans les produits bretons et dans la culture bretonne à Prague, juste à côté de la radio. On passe, comme promis, dans la deuxième partie de cette émission, un nouveau chapitre de l'histoire. Le 7 février, 700 ans se seront écoulés depuis le couronnement de Jean de Luxembourg, roi de Bohême. C'est par le mariage avec Elisabeth Přemyslíd que la dynastie luxembourgeoise arrive en 1311 sur le trône de Bohême. Les quatre rois issus de la nouvelle dynastie se succéderont au pouvoir pendant plus d'un siècle, jusqu'en 1437. Sous leur règne, le royaume de Bohême vivra une période de prospérité, ainsi que le début des guerres hussites. Trois grandes expositions ont été organisées à Prague, à Ostrava et au Luxembourg pour fêter l'événement. Jarka Gisubolava pour plus de détails dans ce nouveau chapitre de l'histoire.
Chapitre de l'histoire.
La chose la plus importante sera l'exposition ici à Prague qui sera spécialement dédiée au mariage entre Jean l'Aveugle, comme nous l'appelons, vous l'appelez Jan Lusoborski, et Elisabeth de Přemyslíd.
Ces propos sont ceux de l'ambassadeur du Grand-Duché de Luxembourg en République tchèque, M. Jean Faltz, qui a pris l'initiative d'organiser une série de manifestations à l'honneur du 700e anniversaire de l'avènement de Luxembourg au trône de Bohême.
Quand je suis arrivé ici, il y a 2 ans et demi, j'en ai parlé un peu à tout le monde. J'ai contacté beaucoup de ministères, beaucoup d'agences, des institutions culturelles, etc. Et je dois dire que partout, j'ai trouvé un très très grand intérêt. Je crois que les Tchèques ont une prédilection spéciale pour cette période, fin du Moyen-Âge, et qui est un peu l'époque d'or de Charles IV. Et je pense qu'ensemble, nous pouvons en être très fiers.
Pour le royaume de Bohême, la nouvelle union dynastique est un heureux dénouement qui arrive après l'assassinat du dernier roi des Přemyslíd, Venceslas III, qui meurt sans héritier en 1306. Son successeur, Henri de Carinthie, époux de la sœur aînée du roi décédé Anne, s'avère être un souverain faible et impopulaire. Elisabeth, sœur d'Anne, se considère, elle, comme l'héritière de la célèbre dynastie. Après de longues tractations, la noblesse et le clergé finissent par se mettre d'accord pour demander à l'empereur romain germanique Henri VII de donner son consentement au mariage de son fils unique Jean avec Elisabeth Přemyslíd. Elisabeth avait 18 ans, Jean de Luxembourg en avait 14 au moment de leur mariage. La cérémonie religieuse est célébrée le 1er septembre 1310 dans la cathédrale de Spire, une ancienne ville de Rhénanie-Palatinat. On écoute Clara Benechowska, commissaire de l'exposition Le mariage royal, qui est à voir dans la maison à la cloche de pierre sur la place de la vieille ville de Prague.
Une description détaillée nous est fournie par le chroniqueur Peter Jetavski qui raconte que tout le monde attendait avec impatience l'arrivée de la princesse Elisabeth. À la surprise générale, Elisabeth, habillée la veille d'une splendide robe richement brodée, s'est présentée vêtue d'une robe toute simple, selon les traditions de la cour de Paris, où la mère de Jean de Luxembourg, Marguerite de Brabant, avait été élevée. Comme l'écrit le chroniqueur, c'est en toute simplicité, en habit de pénitent, que Jean et Elisabeth se sont présentés devant l'archevêque de Mayence, Pierre d'Aspelt. Agenouillés devant l'autel, en profonde humilité, leur union a été bénie devant Dieu.
Par ce mariage, Jean de Luxembourg devient donc roi de Bohême et à ce titre prince électeur du Saint-Empire. De cette union naissent 6 enfants dont Charles IV, futur empereur germanique romain, est le plus connu. En 1348, Charles IV fonde la nouvelle ville de Prague et la première université en Europe centrale. Avec son père Jean, il pose la première pierre de la cathédrale Saint-Guy. À la mort de Charles IV, c'est son fils Venceslas IV qui lui succède. Sous son règne, Jan Hus est nommé recteur de l'université pragoise. Le dernier de la dynastie Sigismond, souvent impopulaire peu aimé des Tchèques, meurt sans héritier en 1437. La maison à la cloche de pierre qui abrite l'exposition Le mariage royal est celle-là même qui a servi de résidence provisoire au couple royal à son arrivée à Prague le 3 décembre 1310. Français par sa grand-mère maternelle, Jean de Luxembourg introduit une nouvelle culture à la cour de Prague. Contrairement à une opinion répandue, Clara Benešovská ne pense pas que les Tchèques n'aient pris connaissance de la culture occidentale et notamment française qu'avec l'arrivée de Jean de Luxembourg en Bohême.
Le royaume de Bohême faisait partie du Saint-Empire romain et en son sein, des influences venant de tous les horizons se croisaient. Il y avait aussi une importante migration d'artistes, de diplomates, de dignitaires ecclésiastiques. Il serait fou de penser qu'ici, dans les pays de la couronne de Bohême, on ignorait ce qui se passait en France. Depuis le XIIe siècle déjà, avec des couvents cisterciens, des artisans, des orfèvres, des enlumineurs, les influences des cultures d'Europe occidentale s'y croisaient.
L'un des objets les plus précieux exposés à l'occasion du 700e anniversaire du couronnement de Jean de Luxembourg, la couronne qu'aurait portée Élisabeth au moment du couronnement. Le bijou fait partie du trésor des rois de Bohême, découvert dans les années 1980 lors des travaux de construction dans la ville polonaise de Śleska-Strzeda. Le 7 février, jour anniversaire de la cérémonie de couronnement, la couronne sera déplacée de Prague à Ostrava. Plus de 400 objets d'art empruntés dans 5 pays sont à voir à l'exposition proposée par le musée d'Ostrava. Elle présente Jean de Luxembourg en tant que personnage représentatif de l'Europe chevaleresque et diplomate habile, observe David Mayer, commissaire de l'exposition.
Jan Lucemburský díky svým diplomatickým dovednostem postupně připravil.
Grâce à ses qualités de diplomate, Jean de Luxembourg a su rattacher plusieurs voïvodies de Silésie au pays de la couronne de Bohême avant d'annexer toute la région historique de Silésie et d'unifier la ville d'Ostrava divisée en deux par la rivière Ostravice.
Zemi Slezsko a tím pádem vlastně i obě Ostravy se spojily.
Par sa politique, sa diplomatie, ses interventions guerrières, Jean de Luxembourg marque fortement sa présence sur l'échiquier européen. L'exposition au musée d'Ostrava, sous-titrée « Le roi qui volait », le montre comme un chef militaire qui court sur tous les champs de bataille de l'Europe. On le retrouve dans son comté natal, en Silésie, en Pologne, en Lituanie, en Allemagne, au Tyrol, en Italie du Nord, auprès des papes en Avignon et à la cour des rois de France. Et le montre aussi comme un roi étranger qui, à peine couronné, laisse le gouvernement de son royaume à sa femme Élisabeth. Archétype de l'idéal chevaleresque du XIVe siècle, avec pour devise « Ich diene », je sers, Jean de Luxembourg tombe le 26 août 1346 à la bataille de Crécy à laquelle il participait aux côtés du roi de France contre les Anglais.
Merci de votre attention et de votre fidélité. Retrouvez-nous sur internet au www.radio.cz, www.radio.cz. Nous sommes également sur Facebook. Il suffit de taper Radio Prague. À très bientôt.